Chapitre 13. Dragon.
Pendant la guerre des pirates rouges, nombre de maisons maternelles dures, à leur corps défendant, payaient tribut à Kébal Pincru et à la femme pâle en leur donnant les hommes de leur clan. Ceux qui refusaient la conscription forcée de leurs guerriers étaient punis de forgisation. Ainsi que nous disons dans les six duchés. Le châtiment frappait surtout les femmes et les enfants de sexe féminin des clans, ce qui plaçait les hommes dans un dilemme insoluble. Les forgisés jetaient la honte et le déshonneur sur leur maison, mais celle-ci ne pouvait autoriser un de ses mâles à les tuer sans se trouver dans l'obligation de lui imposer le même sort. Mieux valait que les guerriers s'embarquent aux ordres de Pincru plutôt que courir le risque de l'anéantissement de leur clan. Ceux qui en revinrent ne ressemblaient plus à ceux qui étaient partis, et beaucoup d'entre eux moururent apparemment dans leur sommeil après la guerre. Des rumeurs prétendent que les femmes de leur propre maison maternelle les empoisonnèrent, car ils n'avaient plus l'esprit de fils vertueux. Niel. Brève histoire des pirates rouges outriliens. Un éclair bleu et argent tomba du ciel limpide. Tintaglia plongea droit dans la fosse, la queue battant furieusement, le cou tendu, et sa gueule grande ouverte laissa voir des rangées de dents semblables à des poignards. Comme un fauve enragé, elle fondit sur le dragon en qui s'était mué Kébal Pincru, et ses mâchoires le saisirent à la nuque, derrière sa tête trapue. Les serres claquant et crissant sur ses écailles, elle s'efforça d'assurer sa prise sur lui et de rester sur son échine. Cette attaque inattendue détourna l'attention de la créature grossière. Elle poussa un rugissement, et Glacefeu en profita pour se dégager brutalement. « Éloigne-toi de lui, grimpe, envole-toi, n'essaye pas de le combattre au sol !» Tintaglia émettait des sons qui ne formaient pas un langage, mais véhiculaient néanmoins un sens que je percevais. Je ne pense pas que tous ceux qui assistaient à la scène se rendirent compte qu'elle parlait. Toutefois, Glacefeu, lui, sut qu'elle s'adressait à lui, et il lui répondit d'un barrissement dont je ne saisis pas complètement la signification. Peut-être mes rencontres précédentes avec la femelle me permettaient-elles de mieux la comprendre. Quoi qu'il en fût, je vis le mâle émacié remonter avec effort au bord de l'excavation et s'écarter de la violente mêlée entre faux et vrai dragon. À l'évidence, Tintaglia ne pourrait retenir longtemps Pincru. Elle était beaucoup plus petite que Glacefeu, disparité entre sexes sans doute normale dans leur espèce. À côté de la créature de pierre massive et trapue, elle apparaissait fine et souple, légère face à sa lourdeur. On eût dit un faucon aux prises avec un taureau. Vivacité incarnée, elle ne parvenait pourtant pas à lui causer de dommages. Elle avait enfoncé les crocs dans la nuque de son adversaire, mais elle ne lui tirait pas une goutte de sang. Ses pattes postérieures, aux griffes puissantes, ne laissaient sur les flancs de l'autre que des marques blanches, semblables à celles qu'un enfant trace sur un rocher à l'aide d'un caillou pointu, et qui ne semblait pas l'affaiblir. Il s'ébrouait pesamment pour la déloger, mais tenace, elle s'agrippait et persistait futilement à l'attaquer avec des armes qui ne lui faisaient aucun mal, comme une femme qui tente de déchirer la cuirasse d'un guerrier à l'aide de ses seuls ongles. Une question me traversa l'esprit. Du sang circulait-il seulement en lui, ou bien n'était-il que pierre animée par la volonté? Et dans ce cas, comment tuer un être pareil? S'il résistait aux assauts d'une créature aussi puissante que Tintaglia, quel opposant pouvait l'arrêter? Des vagues de haine émanaient sans cesse de Pincru, portées par l'art. Je sentais la désorientation et la fureur qu'il éprouvait à se trouver dans ce corps vigoureux mais difficile à manier. Bien qu'éveillé, il restait étrangement incomplet. Ses pattes s'agitaient dans la glace brisée sans lui permettre de sortir de la fosse. Il déploya maladroitement une aile, mais parut incapable de la faire battre ou même de la replier, et elle demeura étendue, inutile. Il tourna lourdement la tête de droite et de gauche, dans l'espoir d'obliger son adversaire opiniâtre à lâcher prise, mais en vain. Les yeux d'argent de Tintaglia se levèrent pour suivre la progression de Glacefeu. Avec une lenteur pitoyable, il terminait de se hisser hors de l'excavation. Quand il se redressa en chancelant sur ses pattes postérieures, les ravages de son long emprisonnement se révélèrent encore plus clairement. Je vis son bréchet saillant pointé sous les plis de sa peau écailleuse, et l'image me vint de la carcasse d'un oiseau rongé par les fourmis. Il ouvrit grand ses ailes en lambeaux, puis les agita, et leur vent porta jusqu'à mes narines une puanteur d'animal malade. Il remua son interminable cou pour en assouplir les muscles et battit plusieurs fois de la queue. On eût dit un homme qui essaye de renfiler des vêtements devenus trop petits pour lui depuis longtemps. Il ne se pressait pas, comme si le combat qui se déroulait dans la fosse ne le concernait nullement. Il se passa le museau sur les ailes, à la façon d'un oiseau qui se lisse les plumes, puis il les déploya et les secoua comme un corbeau qui remet son plumage en place. Elles battirent une première fois, lentement. Une deuxième, puis la troisième, Glacefeu leur imprima une vigueur telle que la neige s'envola devant lui et que l'air siffla par leurs déchirures. Tout à coup, il se pencha en avant, et ses pattes postérieures musculeuses le propulsèrent vers le ciel. Il s'arracha de la glace avec la pesanteur maladroite d'un oiseau de mer, mais une fois que ses griffes quittèrent le sol, on eut l'impression qu'il se libérait de toute entrave, et il s'éleva sans à-coups. Du coin de l'œil, j'aperçus Risque, qui tournoyait très loin au-dessus de nous, et je me demandais quel sentiment lui inspirait de voir une créature aussi gigantesque monter vers elle. Tintaglia parut juger que Glacefeu n'avait plus rien à redouter, car elle se détacha brusquement de Pain Cru et bondit dans les airs avec la légèreté d'un lézard. Ses ailes bleues argentées se déployèrent gracieusement, et en deux battements, elle entama l'ascension du ciel. Avec retard, Pain Cru se rendit compte que les assauts contre lui avaient cessé. Il rejeta la tête en arrière, poussa un rugissement haineux à notre intention, puis leva le cou pour tourner un œil terreux vers l'azur. Un grondement sourd et glaireux s'échappait de sa gorge, plus courte et plus épaisse que celle des vrais dragons. Le contact d'art de la femme pâle éclata avec une violente fureur. Je n'étais pas la cible de son message, et il ne fit que m'effleurer, mais je le captais sans difficulté. Sa puissance paraissait amoindrie, comme si la libération du dragon l'avait épuisé. On eût dit ses pensées embourbées dans un marécage de douleur.
« Tue les dragons, l'un ou l'autre, ou les deux, mais tue-en un au moins. Ne t'occupe pas des humains, ils ne peuvent rien contre toi. Plus tard, tu pourras les dévorer à ton gré, mais pour l'instant, venge-toi des six duchés, tue leur dragon, Pain Cru !»
Au même instant, la lourde tête de la créature pivota. Elle ouvrit grand ses mâchoires de pierre et elle happa la queue de Tintaglia. L'envol gracieux se transforma brusquement en chute désordonnée. La reine dragon poussa un cri et je vis Glacefeu réduire son envergure et je sentis son regard se poser sur la lutte qui se déroulait au sol. Son vol s'inclina et il plongea tout à coup. Pain Cru avait réussi à déployer ses ailes et cherchait d'abord à s'en servir pour freiner Tintaglia, mais il parut acquérir, en les agitant gauchement, une vague idée de la façon de les commander. Sans lâcher la queue de son adversaire, il se mit à battre l'air violemment en effectuant des bonds lourds et inefficaces qui donnèrent à la reine dragon, brutalement ballottée, des allures de cerf-volant au bout d'un fil. Elle émit un hurlement aigu comme le crissement d'une épée qui sort du fourreau et commit l'erreur de faire tout à coup demi-tour pour attaquer son agresseur. Malgré sa taille imposante, elle n'avait pas plus de chance qu'un papillon face à un lézard. La tempête soulevée par les battements frénétiques de ses ailes projeta des tourbillons de neige glacée dans mes yeux et me précipita par terre, mais laissa Pain Cru de marbre. Il se mit à la frapper de ses lourdes ailes, à coups terribles dont le bruit évoquait celui des merlins débouchés dans les abattoirs. Il allait la tuer. La conséquence m'apparut aussitôt. La femme pâle l'emporterait. Elle mettrait fin, malgré tout, à l'existence des dragons dans le monde, et nul n'y pouvait rien. Si les serres de Tintaglia n'avaient pas pu entailler la peau du monstre de pierre, à quoi serviraient nos armes contre lui ? Une éternité s'écoula en abattement de cœur. Je pris conscience de la présence du prince à mes côtés, pétrifié par le spectacle, et je maudis ma stupidité. Je le saisis par l'épaule, le secouai et m'écriai. « Allez-vous-en ! Nous ne pouvons rien faire, sauvez-vous !» Mais il ne bougea pas, bouche bée devant la bataille. Soudain, Glacefeu attaqua, éclair noir dans le ciel bleu. Le choc du géant heurtant le dragon de pierre ébranla le glacier, avec la force des explosions d'imbre et nous jeta à terre, Devoir et moi. Quand je parvins à me redresser sur mes genoux et à me frotter les yeux, Tintaglia s'était dégagée de la mêlée. Elle rampait sur la glace, en s'aidant de ses ailes autant que de ses pattes, et son sang visqueux fumait en touchant la neige. Par le vif, je perçus les ondes de douleur qui émanaient d'elle. Jamais, je crois, elle n'avait éprouvé pareille souffrance, et elle restait hébétée d'indignation et d'horreur. Devant nos yeux incrédules, les deux mâles s'élevèrent de la cavité effondrée, battant des ailes sans cesser d'échanger des coups de griffes. Les bourrasques terribles qu'ils déclenchaient nous jetèrent à genoux, le prince et moi, à plusieurs reprises, tandis que nous nous efforcions, chancelant, de nous éloigner pour nous abriter de leur violence. J'entraînais Devoir à ma suite en criant « Si un dragon de pierre vous survole trop longtemps, il peut vous forgiser, il faut nous enfuir !» La force des rafales décroissait. D'une poussée, je fis avancer l'adolescent qui continua de marcher d'un pas titubant. Pour ma part, je m'arrêtais, me retournais, puis levais les yeux vers le ciel. Engagé corps à corps dans le combat, les ailes battant presque à l'unisson, il continuait de prendre de l'altitude, tout en exécutant une danse étrange aux mouvements sinueux, où leurs serres cherchaient où se planter, tandis qu'il portait des coups de croc à répétition, semblables à des serpents qui frappent. Mais s'il montait, c'était grâce à la puissance et à l'envergure de glace-feu, plus qu'aux efforts du dragon de pierre. Étroitement enlacés, ils ne formèrent bientôt plus que des silhouettes noires, aux rugissements aigus sur le fond bleu du ciel.
« Vite, regardez !»
Le cri de Devoir parvint comme un murmure tout juste audible à mes oreilles malmenées et tintantes, mais la façon dont il me secouait attira mon attention. Ce jeune fou était revenu auprès de moi, et il désignait le chaos de glace au fond de l'excavation. À l'une des extrémités apparaissait une petite ouverture où l'avalanche n'avait pas complètement comblé la salle royale, et sur la pente instable et accidentée, Eliania grimpait tant bien que mal. Malgré le sol traître, elle avançait avec une résolution farouche, en tirant derrière elle, par des chaînes attachées à ses poignets, une enfant qui se débattait en hurlant. La petite fille avait les cheveux plaqués par la crasse, et une chemise en lambeaux la couvrait à peine, mais malgré tout, la ressemblance restait frappante. Eliania avait retrouvé sa sœur. Piotr émergeait du trou à sa suite, rampant à demi, une épée ensanglantée à la main, dans l'autre, une chaîne qui lui servait à traîner une femme inconsciente et décharnée. Il avait reçu une entaille au cuir chevelu, et le sang ruisselait sur la moitié de son visage. Dès qu'il put se redresser, il prit la femme dans ses bras et s'élança dans la pente. Mais les blocs de glace roulèrent, glissèrent sous ses pieds, et il tomba sur un genou au bout de deux enjambées. Haletant, la respiration hachée, comme s'il avait épuisé toutes ses forces. Il lâcha soudain sa sœur et se retourna pour faire face à ses poursuivants, qui à quatre pattes sortaient à leur tour de la brèche. Ertre, onde noire, tomba au sol, inerte, inconsciente ou morte, et commença de glisser vers eux. Eliania nous avait rejoints. Elle jeta un regard derrière elle et poussa un cri strident en voyant Piotr acculé.
« Tenez ça !»
lança-t-elle à Devoir en lui jetant l'extrémité de la chaîne. Il l'attrapa par réflexe, bouche bée devant sa promise débraillée. Elle avait saigné d'une narine. Le sang séché soulignait la commissure de ses lèvres. Et ses cheveux hirsutes pendaient en mèches sur son visage. Elle dégaina une épée courte et vola au secours de son oncle, tandis que le prince restait avec la petite forgisée en laisse. Tout à coup, comme en écho, il me cria
« Tenez ça !»
et il m'envoya la chaîne. Elle tomba par terre avant que je pusse la saisir, et je la coinçai sous ma botte avant que l'enfant eût le temps de s'enfuir. Mais elle ne souhaitait pas s'enfuir. Au contraire, elle se précipita sur moi, prête à mordre. Pour mon vif, elle n'existait pas. Mais comme je l'étreignais à plein bras et m'efforçais d'éviter ses assauts, je sentis nettement dans ma chair l'impact de ses coups. J'ai affronté nombre d'adversaires, mais rien ne m'avait préparé à faire face à une fillette de 10 ans, maigre comme un coucou, qui ne se préoccupait nullement de sa propre sauvegarde. Acharnée à me dépecer tout vif, à coups de dents et d'ongles, tout en me martelant des genoux, elle connut un certain succès puisqu'elle parvint à me griffer le visage et à planter ses canines dans mon poignet avant que je ne réussisse à la jeter à terre. Je me plaquai sur elle de tout mon poids, la retournai à plat ventre, la saisis par les coudes, puis la relevai contre moi, si bien que ses bras se croisaient sur sa poitrine. Elle continua de me donner des coups de talon, mais elle était pieds nus et le cuir épais de mon pantalon amortissait les chocs. Alors, elle baissa la tête pour prendre ma manche entre ses dents et la secouer comme un lapin dont elle eût voulu briser la nuque. Mais elle ne mordait qu'une bonne laine résistante et je la laissais faire. Elle finit par comprendre qu'elle ne se libérerait pas ainsi et entreprit de me frapper la poitrine à grands coups de tête. Cela n'avait rien d'agréable, mais tant que je gardais le menton haut, c'était supportable. Ayant ainsi vaillamment immobilisé mon chétif adversaire, je me dévissais le cou pour voir ce qui se passait dans la fosse. Eliania, arrivée à la hauteur de sa mère, se tenait accroupie à côté d'elle sur la pente instable, l'épée au clair, tandis que Péotr bataillait contre deux des gardes au regard éteint de la femme pâle. La Narcheska voulait-elle repousser les assaillants ou bien donner le coup de grâce à sa mère avant qu'il ne s'empare d'elle à nouveau? Je l'ignorais. L'espace d'un instant, mon cœur cessa de battre, car je ne voyais de voir nulle part. Puis, je l'aperçus derrière Péotr, campé devant le trou par où la nièce et l'oncle avaient émergé. Le poignard rouge de sang, il bloquait la route à de nouveaux assaillants.
« On nous attaque !»
J'entendis le cri d'art que lança Imbre, en même temps que des clameurs me faisaient tourner la tête vers notre camp. Des Das savaient où, les sbires de la femme pâle avaient surgi pour fondre sur notre groupe réduit et déjà mis à mal. Apparemment, ils cherchaient à empêcher quiconque de se porter au secours de Tintaglia, bien qu'aucun d'entre eux n'eût le courage de s'en prendre directement à la reine dragon à terre. Du coin de l'œil, j'aperçus mon vieux mentor tel que je ne l'avais jamais vu, fermement campé sur ses pieds. L'épée à la main, il faisait front aux côtés de longues mèches. Lourd, accroupi derrière eux, poussait des cris plaintifs, les bras sur la tête.
« Lourd, repousse-les, comme tu m'as repoussé, moi. Ils ne reculeront pas tous, mais certains céderont. Attaque-les à ton tour. Dis-leur de s'en aller et de ne pas nous voir, je t'en prie, Lourd. »
Submergé de désespoir, je serrai contre moi la fillette qui continuait à se débattre. Je n'osais pas la lâcher. Mais tant que je la tenais, elle m'empêchait d'intervenir dans le combat. Lourd était resté apparemment sourd à ma supplique. Pourtant, tout à coup, je vis le petit homme écarter un bras et jeter un regard prudent alentour, comme un enfant apeuré. Puis je sentis une faible onde d'art dirigée contre les assaillants.
« Allez-vous-en ! Allez-vous-en ! Allez-vous-en !»
Deux guerriers au moins obéirent aussitôt. Ils firent brusquement demi-tour et s'éloignèrent rapidement, comme si une affaire urgente les appelait ailleurs. Plusieurs autres hésitèrent et se virent réduits à se défendre, l'air de se demander où ils se trouvaient encore et pourquoi ils s'en prenaient à nous.
« Encore, Lourd ! Aide-moi ! »
Imbre était à bout de souffle. Cela perçait dans son art. Son âme pesait tout le poids du monde, et il n'avait jamais aimé regarder un homme dans les yeux quand il le tuait. Soudain, je captai une vague rouge de souffrance quand une estafilade lui ouvrit le haut de l'avant-bras, et je vis Lourd se rejeter d'un bond en arrière en s'agrippant le bras.
« Imbre, bloquez votre douleur. Lourd la partage. Lourd, dis à la douleur de s'en aller. Envoie-la aux méchants hommes. Tu peux le faire. »
À cet instant, une bourrasque venue du ciel me frappa, et je me courbai, effrayé comme un campagnol au vent d'une chouette au-dessus de lui. Les dragons revenaient. Leur bataille se déroulait dans un silence terrifiant, hormis le bruit de leurs ailes qui battaient l'air et celui sourd des coups qu'ils se portaient. Perdus dans leur fureur, ils étaient montés très haut. La tête rentrée dans les épaules, je les observais et crus discerner la stratégie de Pincru. Ils s'accrochaient à Glacefeu, les mâchoires serrées sur son cou, tandis que l'autre s'épuisait à maintenir son altitude, car il se savait incapable de vaincre le dragon de pierre au sol. Affaibli, il se tordait en tous sens pour échapper à la prise mortelle de son adversaire. Il risquait de tomber sur nous.
« Sortez de là !»
hurlai-je à Devoir.
« Les dragons dégringolent !»
Il leva les yeux vers moi, surpris, puis bondit en arrière pour esquiver une botte soudaine. Il lança un avertissement à Péotr et à la Narcheska. Onde Noire avait éliminé un de ses opposants et l'autre battait en retraite. La jeune fille saisit sa mère par la cheville et entreprit de la remorquer hors de la fosse, l'épée toujours brandie. Je tendis la main quand elle fut assez proche de moi, la pris par le poignet et l'aidai à franchir le bord de l'excavation, après quoi, sans grâce, elle en fit autant avec sa mère inconsciente. Pour ma part, je dus aussitôt resserrer ma prise sur sa petite sœur qui en avait profité pour cracher et se débattre de plus belle. Eliania tira la femme à l'écart du trou, puis s'écria
« Sortez de là, il tombe !»
En effet, en pleine chute, Les dragons enchevêtrés grandissaient de plus en plus. Devoir et Péotre rompirent le combat, escaladèrent tant bien que mal la pente traîtresse et se hissèrent hors de la fosse. La Narcheska s'éloigna elle aussi, entraînant sa mère derrière elle et en exhortant éperdument les deux hommes à se hâter. Je m'emparai de la fillette, la soulevai dans mes bras et courus à la suite de la jeune fille. Il n'y avait rien d'autre à faire, je le savais, mais cela ne m'empêchait pas de me sentir lâche. Les bottes martelant la glace, Devoir me dépassa, rattrapa sa fiancée, ramassa le corps inconscient qu'elle tirait et le jeta sur ses épaules. Une seconde plus tard, la main de Péotre se plaqua durement dans mon dos, m'obligeant à accélérer, et nous poursuivîmes notre fuite de conserve. L'ombre des dragons s'élargissait autour de nous. Un instant envahi de stupeur et d'une impression de vertige, je repris ma course titubante et nous nous portâmes à la hauteur du prince et des deux femmes. Eliania tendit brusquement le doigt vers le ciel, avec un cri muet. Glacefeu avait réussi à se défaire de Pincru, et il battait frénétiquement des ailes pour reprendre de l'altitude, tandis que l'autre continuait à choir sans grâce, à peine capable, malgré son envergure, de freiner la descente de sa lourde masse. L'impact fit trembler le glacier. Il avait heurté le bord de l'excavation où je me tenais quelques instants plus tôt. J'espérais que le choc sur l'arête l'avait tué. Mais il roula lentement sur lui-même, se remit sur ses pattes et s'ébroua. Il tourna son mufle camard de gauche et de droite, puis, tel un lézard trapu qui s'extrait de la boue, il mit en marche ses membres puissants et se sortit de la fosse sur le ventre, la queue battant rageusement la neige derrière lui. L'espace d'une seconde, il parut concentrer ses regards sur moi et mes entrailles se glacèrent. Soudain, comme un cheval dont on serre brutalement la bride, il rejeta la tête en arrière et la secoua avec fureur. Ses yeux ternes à côté de ceux argentés de Tintaglia se portèrent au-delà de moi pour se fixer sur la reine dragon à terre. Il se détourna de nous et se dirigea lourdement vers elle avec des grognements haineux. Je perçus alors l'art de la femme pâle qui l'encourageait à tuer la femelle. Tout serait alors réglé. Il pourrait ensuite donner libre cours à sa colère et à sa faim, mais d'abord il fallait tuer la femelle. Plus rien ne se dressait entre la victoire et lui. Elle n'était pas de taille contre lui. Mais la femme pâle se trompait. À ma grande angoisse, je constatais qu'il restait deux défenseurs à Tintaglia. Burik, presque aveugle, se tenait près du dragon blessé et pressait son manteau plié sur son encolure pour arrêter l'hémorragie. En voyant le tissu fumé, je m'interrogeais sur la composition du sang de la créature. L'ancien maître des écuries était absorbé par sa tâche et Tintaglia avait ramené sa tête dans une attitude de défense vers son flanc. Aucun ne paraissait conscient de la mort qui s'avançait pesamment vers eux. Mais l'Est, si. Il s'était planté devant la reine dragon, telle une fourmi protégeant un château. La flèche peinte par le fou de couleurs vives jaillit de son arc et se brisa en mille morceaux sur le monstre de pierre. Sans se laisser démonter, il en prit une nouvelle dans son carquois, l'encocha, banda son arme et, puisant dans une réserve de courage qui paraissait trop immense pour un enfant si frêle, il avança de deux pas vers l'adversaire. Il tira encore une fois, sans plus de résultat. Pourtant, il ne bougea pas et sortit une troisième flèche. Pour accéder à Tintaglia, Pincru devrait lui passer sur le corps. L'enfant lança un avertissement à son père par-dessus son épaule, l'arc tendu. Incapable d'intervenir, je vis le dragon fixer son regard implacable sur lui, et brusquement, Pincru s'élança dans un lourd galop. L'Est leva les yeux vers sa mort et sa bouche s'ouvrit grand pour laisser échapper un cri de terreur et de défi à la fois. Son arc trembla entre ses mains. La pointe de la flèche grise s'agita follement, mais il ne recula pas. Burik tourna d'abord la tête, puis tout le corps. Aujourd'hui encore, je me rappelle la scène dans ses moindres détails. Je le vis prendre une soudaine inspiration, puis j'entendis, malgré les tintements de mes oreilles, son rugissement d'outrage qu'on eut l'audace de menacer son fils. Je ne l'avais jamais vu se déplacer aussi vite. Il se précipita vers l'est, et le dragon, en projetant des blocs de neige qui se détachaient de ses bottes, Tintaglia redressa légèrement la tête, témoin sans force de sa charge. Il s'interposa entre son garçon et Pincru en dégainant son couteau. Je n'avais jamais assisté à une attaque plus ridicule et plus courageuse. D'un bond, il se jeta sur la créature soudain désorientée, l'arme levée et la lame se brisa sur la chair de pierre. Au même instant, il repoussa le monstre d'une explosion de vif, aussi puissante qu'une des déflagrations d'Imbre. J'y sentis la violence d'un étalon qui défend sa horde, la férocité du loup ou de l'ours qui protège ses petits, pétri d'amour pour ce qu'il protégeait, plus que de haine de ce qu'il affrontait. Dirigé contre l'agresseur, la force prodigieuse du coup jeta la bête de pierre à genoux. Mais en s'affaissant, Pincru agita follement les ailes, et il heurta Buric qu'il projeta de côté comme un moucheron, tournoyant dans les airs.
« Non !»
hurlai-je. Mais il était trop tard. Buric retomba sur la glace en ployant affreusement, comme une poupée de chiffon, puis continua de glisser en tournant sur lui-même. Pincru se releva lourdement. Il secoua la tête, reprit sa respiration avec difficulté, puis s'avança, la gueule ouverte, vers l'est et Tintaglia. Le jeune garçon avait suivi des yeux son père, alors qu'il se brisait au sol. Il se retourna vers le dragon, et la bouche distendue poussa un hurlement de haine pure. Animé de cet influx, il tendit son arc si fort que j'eus peur de voir l'arme se rompre. Je le vis s'unir à la flèche, les yeux plantés dans ceux de la créature qui approchait. Il lâcha la corde. Droit comme l'amour d'un père, le trait gris et brillant fusa. Il s'enfonça dans l'œil du dragon, où il disparut presque. Pincru leva une patte comme pour l'arracher, puis s'immobilisa brusquement, l'air de tendre l'oreille. Je perçus l'art de la femme pâle qui lui ordonnait frénétiquement d'achever sa tâche, de tuer l'archer, de tuer le dragon. Ensuite, il pourrait faire ce qu'il voudrait, tout ce qu'il voudrait. J'avais cru qu'il avait interrompu son geste pour l'écouter, mais il resta figé. Sa peau déjà terne perdit les couleurs de la vie et prit la patine éteinte du roc. Il demeura pétrifié, les ailes à demi déployées, la patte dressée pour atteindre la flèche qui pointait de son œil, les mâchoires ouvertes. Un silence incrédule s'abattit sur le champ de bataille. Le dragon de pierre était mort. Aussitôt, la fillette que je tenais dans mes bras s'anima. Mon vif la sentit s'épanouir comme une fleur. Elle avait cessé de se débattre à l'instant où Pincru avait cessé de vivre, et se pelotonna soudain contre moi.
« J'ai très froid, et j'ai très faim !»
fit-elle d'un ton plaintif. Puis, comme je la regardais, abasourdie, elle éclata en sanglots enfantins. « un instant, lui dis-je, et c'est avec répugnance que je dus la déposer pieds nus dans la neige. J'ôtai le manteau d'Imbre de mes épaules, et l'en emmaillotait. Il lui tombait jusqu'aux orteils. Quand je la repris dans mes bras, elle rentra ses jambes avec soulagement et se blottit contre ma poitrine, roulée en une boule tremblante. « Donnez-la-moi ! Donnez-la-moi ! » s'écria Péotr. Les larmes traçaient des sillons dans le sang qui maculait son visage. « Oh, petit poisson ! Oh, ma Cossy ! Eliania, regarde ! Regarde ! Notre Cossy nous est revenue ! Elle est redevenue elle-même. » Le vieux guerrier se tourna vers sa nièce, puis, comme épuisé de bonheur, il tomba à genoux, l'enfant serré sur son cœur, et se mit à lui murmurer des mots inintelligibles. Eliania leva vers nous des yeux noyés d'émotion, puis elle les baissa vers la femme étendue à ses pieds, inerte dans la neige. Elle se laissa choir à son tour et dit, tandis que les larmes roulaient sur ses joues,
« Nous en avons sauvé une. Nous en avons sauvé au moins une. Mère, j'ai fait ce que j'ai pu. Nous avons tout tenté. »
De voir, agenouillée de l'autre côté de la mer de la Narchesca, la regarda. Avec la douceur d'une nourrice, il écarta les mèches sales du visage émacié.
« Non, vous les avez sauvées toutes les deux. Elle reste inconsciente, Eliania, mais elle est revenue, elle aussi. Je l'aperçois par le vif.
Votre mère aussi vous a été rendue.
Mais comment pouvez-vous le savoir ?
Elle dévisagea la femme sans oser encore espérer. Il sourit. Je le sais, croyez-moi sur parole. Il s'agit d'une vieille magie loin-voyant, héritage de la lignée de mon père. Il se baissa pour soulever la femme sans connaissance. Allons la mettre au chaud, à l'abri, et préparer à manger. Le combat semble terminé pour le moment.
Ils ont tous cessé de se battre à l'instant où le dragon est mort,
confirma Ambre, alors que je me redressais pour contempler le champ de bataille en contrebas.
On aurait dit que toute vie les avait désertés.
Non, ils l'ont retrouvé au contraire. C'est difficile à expliquer, Ambre, mais mon vif me l'assure. Les serviteurs de la femme pâle avaient subi une forgisation partielle, mais, au dernier soupir du dragon, tout ce qui leur avait été volé pour l'animer leur a été rendu. La mère et la sœur de l'anarchesca ont bénéficié du même phénomène. Elles ne sont plus forgisées. Demandez aux Outréliens de parler à leurs adversaires, qu'ils leur offrent à manger, les accueillent et les réconfortent. Ils risquent d'avoir les idées embrouillées. Je parcourus du regard la zone des combats et pus constater l'exactitude de mes propos. Les soldats de la femme pâle avaient lâché leurs armes tous ensemble. L'un d'eux sanglotait, les mains sur les oreilles. Un autre avait saisi un de ses compagnons par les épaules et le gratifiait d'un discours entrecoupé de grands éclats de rire trop sonores. Un petit groupe d'hommes se tenait autour du dragon de pierre. Privé de vie, il s'était déporté en se figeant. Horrible statue posée de guingois. Mais, plus étonnant encore, Tintaglia avait réussi à se redresser, et claudiquante, elle s'approchait de son ennemi à pas prudents, comme un félin en chasse. Elle tendit son long cou gracile avec circonspection, renifla le monstre, le poussa légèrement du museau, puis, sans crier gare, lui décocha un coup violent de la patte antérieure. Le dragon de pierre oscilla avec raideur sur la glace, mais ne chut point. Néanmoins, Tintaglia leva haut la tête et poussa un barrissement de triomphe. Le sang suintait encore des morsures et des estafilades qu'il lui avait infligées, mais elle s'appropriait la victoire. Et tout autour d'elle, les hommes joignirent leurs cris de joie aux siens. S'il y a jamais eu un tableau plus étonnant que celui d'un dragon clamant son succès au milieu d'humains qui lancent des vivats, nul ménestrel ne l'a jamais chanté. Du haut du ciel, un coup de trompe lui répondit. Meurtri, dépenaillé, Glacefeu décrivait une large spirale au-dessus de nous. Il s'inclina sur l'aile, effectua une longue glissade et reprit son circuit à plus basse altitude. Au sol, Tintaglia rejeta la tête en arrière et barrit à nouveau. Sur le pourtour de son encolure, des pans d'écailles se dressèrent soudain comme une crinière, tandis qu'au sommet de son crâne, une crête à peine visible jusque-là s'érigeait, argentée, à la façon d'une couronne. Une vague colorée s'étendit sur elle, du bleu le plus profond jusqu'à l'argent le plus brillant. Les hommes assemblés autour d'elle reculèrent. Elle s'élança dans les airs, avec la légèreté d'un chat qui bondit sur une table. Elle ouvrit les ailes et, en trois battements, commença de s'élever. Aussitôt, Glacefeu l'imita, mais il eut beau faire, la femelle le distança sans mal. Il lui lança un appel empreint de désir, auquel elle ne se donna pas la peine de répondre. Elle continua son ascension, jusqu'au point où j'eusse pu la confondre avec une mouette argentée s'élevant dans le ciel. Le dragon mâle, presque deux fois plus grand qu'elle, affamé, loqueteux, s'acharnait à la poursuivre. Je clignai les yeux lorsqu'ils passèrent devant le soleil. Enfin, il la rattrapa, et ils se mirent à tournoyer ensemble. Les cris graves de Glacefeu étaient autant de défis qu'il jetait au monde entier, mais ceux de Tintaglia, plus aigus, ne s'adressaient qu'à lui, narquois et railleur. Un instant, il la surplomba, puis elle s'inclina et se déroba, du moins le cruge, car il plaqua ses ailes contre ses flancs et s'abattit sur elle, la gueule ouverte, si rouge que, de la distance où je me trouvais, je la distinguais, avant qu'il ne la referme sur le cou tendu de la femelle. Alors, il la recouvrit de toute sa vaste envergure, et tout à coup, ils se mirent à battre des ailes à l'unisson. Glacefeu serra Tintaglia contre lui en arrondissant l'échine, et leurs deux queues s'en mêlèrent. je savais à quoi j'assistais. Ce vol nuptial prédisait la réapparition des dragons dans notre ciel. Les yeux levés, je regardais le miracle de ces deux créatures qui exhibaient sans pudeur leur retour à la vie, et je me demandais ce que nous avions réintroduit dans notre monde.
« Je ne comprends pas !»
s'exclama la Narcheska d'un ton horrifié.
« Après tout le mal qu'elle s'est donné pour le sauver, voici qu'il l'attaque. Voyez comme ils se battent !»
Devoir s'éclaircit la gorge.
« Je ne crois pas qu'ils se battent. » « Alors que... Mais si, là, il l'a mort. Pourquoi la serrerait-il aussi durement s'il ne lui voulait pas de mal ?»
Eliania s'abrita les yeux de la main et continua d'observer les deux dragons avec stupéfaction. Ses cheveux noirs tombaient emmêlés sur ses épaules et dans son dos, son menton levé dénudait la longue et droite colonne de son cou. Sa poitrine tendait sa tunique. De voir qu'il la regardait eut un tout sautement étranglé. Et il se tourna vers moi, puis vers Péotr. Onde Noire avait passé un bras sur les épaules de sa sœur et tenait Cossy dans le creux de l'autre. Le prince dut juger qu'il pouvait se passer de notre opinion en la matière, car il se rapprocha d'Eliania et la prit dans ses bras. « Je te montrerai, » dit-il à la jeune fille pantoise. Il l'étreignit d'un geste viril et approcha ses lèvres des siennes. Malgré les péripéties dramatiques de la journée que je venais de vivre, je ne pus m'empêcher de sourire. Le rapport qui se nouait entre les dragons dans le ciel ne pouvait qu'affecter tout individu doué du vif. La Narcheska rompit enfin le baiser, posa le front sur l'épaule de Devoir et rit tout bas. « Hein !» fit-elle. Puis, elle leva le visage pour qu'il l'embrasse à nouveau. Je détournai les yeux. Pas Ertre. Scandalisée, elle s'exclama d'un ton impérieux auquel ses haillons et sa crasse n'ôtaient nulle dignité.
« Péotr, tu laisses un fermier embrasser notre Narcheska ?»
Il éclata de rire, et je me rendis compte alors avec un choc que jamais je ne l'avais entendu rire.
« Non, ma sœur, mais elle oui, et elle lui donne ce qu'il a mérité. » J'ai beaucoup de choses à t'expliquer, mais je te le promets, rien de tout cela ne va contre sa volonté.
Il sourit.
D'ailleurs, comment un homme pourrait-il oser s'opposer à la volonté d'une femme?
C'est inconvenant,
répliqua Ertre avec raideur, et malgré la saleté de sa robe et de ses cheveux aux mèches raides, son ton était celui d'une Narcheska des îles d'outre-mer. Avec étonnement, je songeais qu'elle avait entièrement recouvré sa personnalité. Et il m'apparut brusquement que, si le fou avait survécu, la mort du dragon avait dû dissiper chez lui aussi les effets de la forgisation. Un espoir insensé surgit en moi, et le monde fit une embardée.
« Le fou !»
m'exclamai-je. Péotr me jeta un regard réprobateur, croyant que je me moquais du prince, et je m'expliquai.
« L'homme fauve, sire doré, il est peut-être encore en vie !»
Je tournais les talons et m'élançais sur la neige durcie. Arrivé à l'excavation, je cherchais des yeux un moyen sans danger de descendre. L'émergence du dragon avait rendu la zone chaotique et instable. L'ouverture par laquelle Eliania et Péotr étaient sortis avait disparu. La chute de Pincru sur l'arête de la fosse et ses efforts pour reprendre pied sur le glacier avaient comblé cet accès au palais de la femme pâle. Toutefois, je me rappelais son emplacement. Il ne pouvait pas, il ne devait pas se trouver enfoui très profondément. Je m'engageais dans la pente traîtresse, tâchant de me hâter tout en conservant mon équilibre au milieu des blocs de glace qui, délogés par mon passage, dégringolaient autour de moi. Je m'arrêtais, puis me remis en route avec plus de prudence et choisis mon chemin avec une lenteur que j'abominais. Chaque fois qu'une masse de glace dévalait devant moi, je savais qu'il me faudrait la déblayer plus tard. Selon mes souvenirs, le passage souterrain s'ouvrait dans la partie la plus profonde de la fosse, et j'allais y parvenir quand j'entendis qu'on m'appelait. Un regard par-dessus mon épaule me montra Péotr debout au bord de l'excavation. Il secoua la tête avec une expression compatissante, puis il parla sans détour.
« Renoncez, blaireau ! Il est mort. Votre ami est mort, je regrette. Nous l'avons vu en parcourant les cellules à la recherche des nôtres.
Je m'étais promis que si nous le trouvions en vie, nous tenterions de l'aider à s'échapper, lui aussi. Mais il n'avait pas survécu. Nous arrivions trop tard. Je regrette. Pétrifié, incapable de dire un mot, je le regardais fixement, mais ne le voyais plus. Le contraste entre le ciel éblouissant et sa silhouette sombre m'aveuglait. Un froid engourdissant s'insinuait en moi, et j'avais l'impression que j'allais m'évanouir. Très lentement, je m'assis dans la neige. Malgré l'exécration qu'elle m'inspirait, je ne pus retenir la question stupide qui me monta aux lèvres. « Vous êtes sûr ?» Il acquiesça de la tête, puis répondit avec réticence. « Tout à fait. On lui avait. » Il s'interrompit, puis déclara abruptement. Il était mort. Il n'aurait jamais pu survivre à pareil traitement. Il était mort. Il soupira longuement. On vous réclame au camp. L'enfant, l'Est, veille le mourant et il vous demande. Le mourant, Burik. Il ressurgit dans mes pensées avec la violence d'une des explosions d'Imbre. Oui, j'allais le perdre lui aussi, c'était insupportable, trop insupportable. J'enfouis mon visage dans mes mains, voûtais les épaules et me balançais d'avant en arrière dans la neige. Trop, trop insupportable. Je crois que vous devriez vous dépêcher. La voix d'Onde Noire me parvenait de très loin. Puis, une autre dit doucement, « Allez, vous occupez des vôtres. Je me charge des miens. » J'entendis quelqu'un descendre la pente, mais je restais indifférent. Je demeurais assis, à essayer de mourir, à m'efforcer de me débarrasser d'une vie où, par ma faute, ceux que j'aimais avaient péri. Une main se posa lourdement sur mon épaule et Tram ordonna. « Debout, Fitz Chevalerie, l'Est a besoin de vous. » Je secouai la tête dans un geste puéril. Plus jamais, jamais, je ne laisserai personne dépendre de moi. « Debout !» répéta-t-il d'un ton plus sévère. « Nous avons perdu assez de monde aujourd'hui. Pas question que nous vous perdions, vous aussi. » Je levai les yeux vers lui. Je me sentais comme forgisé. Il y a longtemps que je suis perdu, répondis-je. Puis je respirai profondément, me redressai et le suivis. Vous venez d'écouter L'Homme Noir, L'Assassin Royal, tome 12 de Robin Hobb, traduit par Arnaud Mounier-Lompré, lu par Sylvain Agaès.